Vous écoutez
RMC.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions ont été faites ce matin par nos grandes gueules du sport. Quatre propositions de débat. Et vous avez pu voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Une quatrième place pour Cyril Linette avec le marketing et le nouveau logo de la LFP. Merci Cyril.
Ouais, merci de cette participation, très content. Mais j'y reviendrai.
Il y a 17%. Cyril, ouais. C'est pas une émission d'intellectuel. Hein,
non, okay. Mais je reviendrai sur ce sujet, je finis toujours par arriver à mes fins.
Bien sûr, et Cyril a déjà gagné de nombreuses fois d'ailleurs depuis ton arrivée dans cette émission, bravo à toi. 24% pour le retour de Romain Ntamack cet après-midi, enfin ce soir, face à Pau, 24% pour Pascal Duprat, troisième. Merci beaucoup Pascal.
Non, je suis content de voir que mes deux acolytes se disputent la première place.
OMPG, ce qu'il faut faire tourner pour un classique, c'était la proposition de Denis Charvet. Il est finalement deuxième avec 27%. Merci Denis.
Bravo.
Bravo à qui? À toi?
À Christophe.
À Christophe, car oui, c'est le grand vainqueur. 32% la victoire pour Christophe. Le vélo trop dangereux. On t'écoute, à toi de convaincre les autres GG.
Un petit écart de quelques centimètres, une roue avant qui touche celle d'un autre coureur placé juste devant, et puis ce sont les espoirs de toute une saison qui s'envolent en même temps que les os qui se cassent. J'ai beau être habitué, ces chutes collectives à vélo me filent à chaque fois que j'envoie la chair de poule. Ce sont surtout les sons qui filent la frousse, ces freins à disque qui hurlent, ces bruits de carbone qui claquent lorsque les vélos pètent, et ensuite les cris déchirants des coureurs comme ceux de Wout van Aert projetés au sol mercredi après-midi dans un travers la Flandre. Je sais pas si vous avez vu ces images, franchement c'était poignant, des cris à la fois de douleur et de dépit pour un garçon qui rêvait depuis des années d'accrocher le Tour des Flandres à son palmarès, qui avait tout bien fait cette année pour arriver en forme et qui a vu tous ses espoirs anéantis lorsque sa roue a touché celle de son équipier. Le bilan est lourd, plusieurs côtes cassées, tout comme le sternum, la clavicule, sans parler, et c'est peut-être le pire, des brûlures sur la quasi-totalité du corps qui empêchent pendant des jours et des jours et des nuits surtout de dormir. Ces chutes, évidemment, c'est pas nouveau, c'est même le quotidien des cyclistes qui vont quasiment tous tâter du bitume à plusieurs reprises dans une saison et qui se relèvent la plupart du temps avec au moins un os cassé et des séquelles psychologiques qui peuvent durer des années. Pierre Latour, vous le connaissez peut-être, c'est un des coureurs de la formation Total Energy, c'est un grand flippé des gamelles. Dès lors qu'il se trouve dans une descente, il est debout sur les freins, il perd des dizaines de secondes à chaque fois, sans cette aversion pour les descentes. Et la peur des gamelles, son palmarès serait sans doute bien plus fourni, c'est un sacré coureur. Mais en 2019, il a été victime d'une grave chute, il s'est pété les deux avant-bras et depuis il flippe. Et il n'est pas le seul. Je suis certain, on en parlait tout à l'heure, par exemple, que le manque de résultats actuels de Julien Alaphilippe est aussi lié à un sale souvenir. Vous en souvenez peut-être, sa gamelle en 2022 sur Liège-Bastogne-Liège, où il est passé tout près de la correctionnelle. Lorsque lancé dans une descente à plus de 80 km/h, il a dû quitter la route, il a été projeté sur le bas-côté, en contrebas d'une route, il est passé à 2 cm à peine d'un arbre. S'il avait pris l'arbre dans la figure, eh bien, il se relevait pas. Ça a été le cas, malheureusement, d'autres coureurs. Je ne sais pas si vous en souvenez. Gino Madère, un coureur suisse décédé en course l'an dernier dans une descente d'un col de Suisse. Et il est loin d'être un cas isolé. C'est simple, en 10 ans, 18 coureurs et coureuses ont trouvé la mort sur les courses cyclistes. C'est tout simplement énorme. Et ça fait du sport cycliste le sport le plus dangereux au monde. Plus que la course automobile, qui a fait d'énormes progrès en matière de sécurité. Plus que le ski également, qui sécurise aujourd'hui l'ensemble des parcours et ne donne pas le départ lorsque les conditions ne sont pas réunies. Le vélo, lui, n'a fait aucun progrès en matière de sécurité. Je dirais même, c'est peut-être le contraire. Certes, les coureurs depuis 20 ans ont l'obligation aujourd'hui de porter des casques, hein, depuis une mesure qui avait été instaurée après l'accident mortel de Kivilev, c'était dans Paris-Nice en 2003, en 2004, mais c'est à peu près tout. Et alors on vous rétorque, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vas pas sécuriser une route qui fait 200 km de long, mettre des barrières des deux côtés de la route, c'est impossible. Et puis, tu vas pas mettre une armure sur les coureurs cyclistes? Non, ben non, ils ont rien, ils ont juste quelques centimètres de Kevlar sur la peau pour se protéger. Je pense malgré tout qu'il y a peut-être des mesures à prendre, comme celle d'éviter ces longues lignes droites en descente où les coureurs roulent groupés à plus de 70 km/h et leurs roues sont à quelques millimètres à peine les unes des autres, ce qui a occasionné la chute de mercredi. Cette portion de route, les organisateurs à travers la Flandre ont décidé de la maintenir, alors que ceux du Tour des Flandres qui va se dérouler demain ont dit c'est trop dangereux, on renonce à cette route. Mais les autres n'ont dit bon non, on va rester là-dessus. Alors il y a d'autres possibilités, on évoque notamment la possibilité de doter les coureurs d'une sorte d'airbag qu'ils se mettraient sur le dos comme le font les skieurs, ou peut-être encore, ça c'est une idée de notre druide Cyril Guimard, d'interdire les oreillettes qui perturbent la concentration des coureurs, trop occupés à écouter les consignes et qui sont moins attentifs, notamment dans les périodes où ça roule très très vite. Il faut en tout cas, selon moi, mener une réflexion urgente, prendre des décisions, car ce jeu de massacre n'a que trop duré. Tous les autres sports ont fait cette démarche. Le vélo, lui, pour le moment, reste droit dans ses galpiers, avec cette image de forçat de la route. Mais quand plus aucun parent ne voudra mettre ses gamins au vélo, ils auront l'air malins avec leurs images d'Épinal.
Merci beaucoup, Christophe Cessieux, pour cet exposé. Ce coup de gueule aussi, j'ai envie de dire, toi qui adore ce sport, qui adore le vélo, qui commente le Tour de France depuis de nombreuses années, est-ce qu'il faut réagir très vite ou est-ce qu'on réagit uniquement sur l'émotion et sur cette chute dramatique et assez impressionnante de mercredi dans cette course flandrienne? Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Cessieux, les GG, est-ce qu'il faut des mesures vite pour effacer la dangerosité de ce sport? Oui ou non? Cyril Linette.
Oui.
Pascal Duprat.
Oui.
Oui. Denis Charvet.
Oui, bien sûr.
Aussi. Cyril Linette, tu commences.
Oui, parce que bon, les descentes vertigineuses, ça fait partie du spectacle, hein, ça fait partie, et ça fait aussi partie du talent des coureurs que d'être capable d'aller très vite et de reprendre du temps en descente, voire de l'accentuer. Donc, on peut pas enlever, la difficulté du parcours comme étant un élément essentiel de la compétition. Mais quand effectivement des solutions pratiques apparaissent, si elles existent vraiment pour protéger des coureurs, Julien Alaphilippe, il en parle dans l'interview d'ailleurs, hein, du bruit de la chute. Et on comprend. Il dit qu'il veut plus vivre ça et que donc quand il entend ça, il est extrêmement stressé et traumatisé. Chaque coureur voulant passer exactement au même endroit pour gagner un maximum de temps, évidemment il y a embouteillage. Donc oui, je pense qu'il y a moyen, exactement comme ça a été fait dans les sports mécaniques, la comparaison de Christophe est bonne, de préserver le spectacle assez mythique de la course cycliste et du risque et du côté vertigineux, tout en faisant en sorte effectivement de mieux assurer la sécurité des coureurs, parce que ça va finir par être d'un autre temps. Et Christophe a raison aussi sur sa conclusion, notamment le pouvoir d'attraction du vélo demain pour les parents et leurs enfants.
Pour les enfants. Julien Alaphilippe, on en parlait un petit peu plus tôt dans cette émission. Interview exclusive à retrouver sur rmcsport.fr. Il revient justement sur cette peur des chutes. Et après, je vous donne la parole, Pascal et Denis.
Peur, c'est un grand mot, mais oui, moi, j'ai beaucoup plus d'appréhension qu'avant. Mais pour en revenir à mercredi, c'était terrible. En fait, je suis pas passé loin. J'ai fait un peu d'équilibre pour pas tomber parce que j'étais complètement à gauche. Je voulais remonter Paul Magnier pour le Canary Berg. Et ouais, juste le bruit, en fait, ça me fout des frissons juste d'en parler parce que, ouais, je suis assez tombé ces dernières années. Je sais ce que c'est à cette vitesse. Tu sais ce que les mecs qui sont par terre, par quoi ils vont passer, quoi. Donc, ça refroidit et je leur souhaite un bon rétablissement. J'ai déjà fait un message à Wout, mais il y a d'autres coureurs et ouais, c'est un sport cruel parce que beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, une chute comme ça, même loin de l'arrivée, bah voilà, tout s'effondre.
Une interview à retrouver sur rmcsport.fr. Pascal Duprat.
Oui, merci Christophe pour le choix du sujet, ça sauve ton émission. ce matin, non, franchement, je regardais la course à travers les Flandres à la télé en direct, et franchement, c'est effroyable, parce qu'on a tout vu, bien sûr, mais aussi tout entendu. C'était ce que tu as souligné, Christophe, c'était incroyable. Van Aert, il gémissait sur la route, c'est impressionnant. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il me semble, même si le vélo doit se pencher sur ses problèmes de sécurité, que c'était plus facile pour la Formule 1 que de sécuriser par rapport au vélo, parce que l'engin, la machine, ben aujourd'hui les Formule 1, c'est pas les Formule 1 naguère, parce qu'il y avait des transformations qui étaient rendues possibles. Là, le cadre du vélo, de roues, des boyaux qui sont de quelques millimètres, c'est difficile d'intervenir, il me semble, sur la bécane, ou en tout cas de faire mieux.
Les bécanes vont même plus vite qu'avant, Pascal.
Oui, mais
les vélos en carbone, ça va plus vite que les vélos de nos grands-pères.
Oui, mais les systèmes de freinage.
Ils sont plus performants, mais ils sont plus dangereux. Voilà. Hein. Les freins à disque, ça occasionne des blessures incroyables. Hein, aussi,
absolument, mais je suis absolument d'accord avec toi. Je pense que les responsables du cyclisme international doivent déjà se pencher, surtout vu d'images comme celle-ci, sur les améliorations qu'il faut apporter en termes de sécurité. Parce que sur cette course, je ne sais pas si tu l'as vu, Christophe, en live, mais ils sont que 40 devant. Hein. Ils ne sont pas nombreux. C'est absolument tout droit. Donc ils vont vite, bien entendu. Parce que c'est un faux plat descendant. Et puis, par contre, alors, l'idée de Cyril Guimard, pour moi, elle me semble essentielle. C'est qu'avec les oreillettes, je ne sais pas comment tu peux faire pour te concentrer sur la course. sur le positionnement de sur dans le peloton, sur l'interaction que tu dois avoir pour éviter un de tes collègues. Donc je pense que les oreillettes, c'est aussi un facteur aggravant de ces chutes.
Surtout quand tu sais que maintenant, tout à chacun prend 90 euros d'amende dès que vous avez vos oreillettes en train de téléphoner dans la voiture. Même si c'est un autre sujet, c'est un coup de gueule personnel, mais ça, on pourra en parler un petit peu plus tard. Denis Charvet, non, mais c'est vrai que la question se pose, et même dans ton sport, on se demande, c'est dangereux. Mais
le rugby a pris des mesures aujourd'hui contre les traumas crâniens,
bien sûr.
Tous les sports s'y sont penchés. Mais
aujourd'hui, le genre de rugby, il est très protégé. Même si ça reste un sport dangereux, évidemment.
Il faut garder cet aspect dangereux.
Oui, bien sûr, mais ça fait partie de notre ADN, effectivement. Mais bon, par rapport au vélo, je pense qu'il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y ait un mort, voire deux, pour prendre des mesures. C'est ça, 18. Surtout.
Ah, il y en a déjà.
Non, mais oui, mais sur 10 ans. Mais je veux dire, quand il y en aura un, deux, au Tour de France, qu'on va avoir des... Moi, ça me frotte dans le dos quand je vois les images pendant le Tour de France. Je me dis comment il n'y a pas plus de morts. C'est...
Et bon, l'apparition des ronds-points, des dos.
C'est le sensationnel qui prend le dessus, le problème. Mais heureusement, en rugby, il y a quand même des belles mesures qui sont
intégrées. Il y a un coureur qui disait justement ça. Les aménagements urbains ont été faits pour ralentir les automobiles. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à 50, à l'entrée de ville, tu arrives aujourd'hui à 30. Mais en revanche, les coureurs, ils arrivent à 60. Et ils se trouvent avec des ronds-points, avec des dos d'âne, avec ces trucs-là. Et ça aussi, c'est hyper dangereux. Et ça occasionne des chutes incroyables.